Chapitre 71. Écrit avec du sang. Sept fils-fils Valano, avérites de Shinovar, marchaient le dos courbé, déchargeant d'un bateau un sac de graines sur les quais de Carbrandt. La cité des Carillons dégageait les odeurs fraîches d'une matinée en bord de mer, paisible mais animée, où des pêcheurs appelaient leurs amis tout en préparant leurs filets. Seth rejoignit les autres porteurs, transportant son sac à travers les rues tortueuses. Un autre marchand aurait peut-être utilisé un chariot tiré par des chules, mais Carbrandt était tristement célèbre pour sa foule et ses montées abruptes. Une rangée de porteurs était une excellente solution. Seth gardait les yeux baissés, en partie pour imiter l'allure d'un ouvrier, en partie pour éviter de regarder le soleil aveuglant dans le ciel, le dieu des dieux, qui le regardait et voyait sa honte. Seth n'aurait pas dû être dehors en plein jour. Il aurait dû cacher son terrible visage. Il avait le sentiment que chacun de ses pas aurait dû laisser une empreinte sanglante. Les massacres qu'il avait commis ces derniers mois, lorsqu'il travaillait pour son maître caché. Il entendait hurler les morts chaque fois qu'il fermait les yeux. Ils irritaient son âme, la réduisaient à rien, le hantaient, le consumaient. Tous ces morts. En tel nombre. Perdait-il la tête? Chaque fois qu'il commettait un assassinat, il se surprenait à le reprocher à ses victimes. Il les maudissait de ne pas avoir été assez fortes pour riposter et le tuer. Lors de chacun de ces massacres, il portait du blanc, comme on le lui avait ordonné. Un pied devant l'autre, ne réfléchis pas, ne te concentre pas sur ce que tu as fait, sur ce que tu va faire. Il avait atteint le dernier nom de la liste. Taravangian, roi de Carbrandt. Un monarque aimé de tous, connu pour avoir construit et entretenu des hôpitaux dans sa ville. L'on savait jusqu'en Azir que Taravangian vous accueillait si vous étiez malade, que vous pouviez venir à Carbrandt vous y faire soigner. Le roi aimait tout le monde. Et Seth s'apprêtait à le tuer. Tout en haut de la ville en pente, Seth traîna son sac avec les autres porteurs jusqu'à l'arrière de l'édifice du palais et pénétra dans un couloir de pierre mal éclairé. Taravangian était un simple d'esprit, ce qui aurait dû faire éprouver à Seth une culpabilité plus grande encore, mais il se retrouvait consumé par le dégoût. Taravangian ne serait pas assez intelligent pour se préparer à la venue de Seth. Idiot. Crétin. Seth n'affronterait-il jamais un adversaire assez puissant pour le tuer? Seth était arrivé tôt en ville et avait pris cette place de porteur. Il avait eu besoin de faire des recherches, car ses consignes lui imposaient, pour une fois, de ne tuer personne d'autre en commettant cet assassinat. Le meurtre de Taravangian devait être accompli dans la discrétion. Pourquoi cette différence? Les consignes établissaient qu'il devait livrer un message. Les autres sont morts. Je viens terminer ma tâche. Les consignes étaient explicites. S'assurer que Taravangian entende et comprenne ces mots avant de lui faire du mal. Tout ça évoquait une œuvre de vengeance. Quelqu'un avait envoyé Seth pour chasser et massacrer les hommes qui lui avaient causé du tort. Seth posa son sac dans le garde-manger du palais. Il se retourna par réflexe pour suivre la rangée traînante de porteurs le long du couloir. Il désigna les toilettes des serviteurs, et le maître des porteurs lui fit signe de s'y rendre. Seth avait effectué le même trajet à plusieurs reprises. Et l'on pouvait lui faire confiance, du moins le croyait-on, pour qu'il fasse ce qu'il avait à faire, puis rattrape les autres. L'odeur des cabinets était bien moins infecte qu'il ne s'y était attendu. C'était une pièce obscure, taillée dans une grotte souterraine, mais une bougie brûlait près d'un homme debout à l'urinoir. Il gratifia Seth d'un signe de tête, rattacha l'avant de son pantalon et s'essuya les doigts sur les côtés tout en se dirigeant vers la porte. Il prit sa bougie, mais eut la gentillesse d'allumer un bout de chandelle laissé là avant de sortir. Dès qu'il eut disparu, Seth s'infusa de fulgiflammes puisées dans sa bourse, puis posa la main sur la porte, appliquant une attache intégrale entre elle et le chambranle pour la maintenir fermée. Sa lame d'éclat apparut ensuite. Dans le palais, tout était construit vers le bas. Se fiant aux cartes qu'il avait achetées, il s'agenouilla et tailla un carré de pierre dans le sol, plus large à la base. Lorsqu'il se mit à glisser, Seth l'infusa de fulgiflammes, exerçant vers le haut une demi-attache basique pour rendre la pierre légère. Ensuite, il se fixa à l'aide d'une attache subtile qui divisa son poids par 10. Il sauta sur la pierre, et son poids diminué repoussa lentement la pierre vers le bas. Il la chevaucha en direction de la pièce qui se trouvait en dessous. Trois canapés aux coussins violets rembourrés bordaient les murs, reposant sous de riches miroirs d'argent. Les cabinets des pâles iris. Une lampe brûlait d'une petite flamme dans son applique, mais Seth était seul. La pierre toucha le sol avec un bruit sourd, et Seth bondit à terre. Il se défit de ses vêtements, dévoilant en dessous une tenue noire et blanche de maître serviteur. Il prit dans la poche un bonnet assorti qu'il enfila, renvoya sa lame à contre-cœur, puis se faufila dans le couloir et s'empressa de verrouiller la porte à l'aide d'une attache. Ces jours-ci, il réfléchissait rarement au fait qu'il marchait sur la pierre. À une époque, il aurait révéré un couloir de pierre, comme celui-ci. Avait-il vraiment été cet homme-là? Avait-il jamais révéré quoi que ce soit? Seth s'empressa de poursuivre son chemin. Le temps lui manquait. Fort heureusement, le roi Taravangian se tenait à un emploi du temps très strict. Septième sonnerie. Réflexion privée dans son bureau. Seth voyait devant lui la porte du bureau, gardée par deux soldats. Seth baissa la tête, cachant ses yeux de chinove, et s'avança précipitamment vers eux. L'un des hommes leva la main pour le tenir à distance, Seth la saisit et la tordit pour lui briser le poignet. Il planta son coude dans le visage de l'homme, le rejetant en arrière contre le mur. Le compagnon, hébété du garde, ouvrit la bouche pour crier, mais Seth lui asséna un coup de pied en plein ventre. Même sans lame d'éclat, il était dangereux, infusé de fulgiflammes et formé au camar. Il saisit le deuxième garde par les cheveux et lui cogna le front contre le sol de pierre. Puis il se leva et ouvrit la porte d'un coup de pied. Il pénétra dans une pièce bien éclairée par une double rangée de lampes sur la gauche. Une bibliothèque remplie occupait tout le mur de droite, du sol au plafond. Un homme était assis en tailleur sur un petit tapis, droit devant Seth. L'homme regardait par une immense fenêtre taillée dans la pierre et qui donnait sur l'océan. Seth s'avança. J'ai reçu la consigne de vous informer que les autres sont morts. Je viens terminer le travail. Il leva les mains et sa lame d'éclat commença à s'y former. Le roi ne se retourna pas. Seth hésita. Il devait s'assurer que l'homme avait bien compris ce qu'il lui avait dit. « M'avez-vous entendu ?» demanda Seth en s'approchant. « Avez-vous tué mes gardes, Seth fils Valano ?» demanda calmement le roi. Seth se figea. Il jura et recula d'un pas, levant sa lame en une posture défensive. Encore un piège ? Vous avez bien travaillé, dit le roi, toujours sans lui faire face. Des dirigeants morts, des vies perdues, la panique et le chaos. Était-ce là votre destin ? Vous posez-vous la question ? Armé de cette monstruosité de lame d'éclat par votre peuple, banni et absous de tout péché que vos maîtres pourraient exiger de vous ? Je ne suis pas absous, répondit Seth, toujours méfiant. C'est une erreur courante que commettent les marchepierres. Chaque vie que je prends me mine et ronge mon âme. Les voix, les hurlements, esprits d'en bas, je les entends crier. Et pourtant vous tuez ? C'est ma punition, répondit Seth. Tuer, n'avoir pas le choix, mais porter les péchés malgré tout. Je suis Avérite. Avérite, répéta le roi d'un ton songeur. Il me semble pourtant que vous connaissez beaucoup de vérités, plus que vos concitoyens désormais. Il se retourna enfin pour faire face à Seth, qui vit alors qu'il s'était trompé sur cet homme. Le roi Taravangian n'avait rien d'un simple d'esprit. Il avait le regard vif et un visage intelligent et sagace, encadré d'une barbe blanche et pleine, dont les moustaches tombaient comme des pointes de flèches. Vous avez vu ce que la mort et le meurtre font à un homme. Vous pourriez dire, Seth fils Valano, que vous portez de grands péchés pour votre peuple. Vous comprenez ce qu'ils ne peuvent comprendre. Par conséquent, vous portez la vérité. » Seth fronça les sourcils, puis tout commença à s'emboîter. Il savait ce qui se produirait ensuite, alors même que le roi plongeait la main dans sa manche volumineuse et en tirait une petite pierre qui scintillait à la lumière de la vingtaine de lampes. « C'était vous depuis le début, » dit Seth, « mon maître inconnu. » Le roi posa la pierre entre eux sur le sol, la pierre de serment de Seth. « Vous avez inscrit votre propre nom sur la liste, » dit Seth. « Au cas où vous seriez capturé, » répondit Tara Vangian. « La meilleure défense contre les soupçons, c'est d'être associé aux victimes. Et si je vous avais tué ?» Les consignes étaient explicites, répondit Tara Vangian. Et comme nous l'avons déterminé, vous êtes très doué pour les suivre. Je n'ai sans doute pas besoin de vous le dire, mais je vous ordonne de ne pas me faire de mal. Donc, avez-vous tué mes gardes ?»« Je ne sais pas, » répondit Seth, s'obligeant à se mettre sur un genou et à renvoyer sa lame. Il parlait d'une voix forte, s'efforçant de noyer les cris qui devaient certainement provenir des avant-toits de cette pièce. « Je les ai assommés tous les deux. Je crois que j'ai fêlé le crâne de l'un d'entre eux. » Tara Vangian exhala un soupir. Il se leva et se dirigea vers la porte. Seth regarda par-dessus son épaule pour voir le vieux roi inspecter les gardes et leurs blessures. Tara Vangian appela à l'aide, et d'autres gardes arrivèrent pour s'occuper des hommes. Seth se retrouva en proie à une terrible tempête d'émotions. C'était cet homme bienveillant et contemplatif qui l'avait envoyé tuer et assassiner. C'était lui qui avait provoqué ces hurlements. Tara Vangian revint. « Pourquoi ?» demanda Seth d'une voix rauque. « Vengeance ?»« Non, » répondit Tara Vangian d'une voix très lasse. « Plusieurs des hommes que vous avez tués étaient des amis très chers, Seth fils Valano. » « Une autre garantie ?» cracha Seth. « Pour vous garder hors de tout soupçon ?» « En partie, et en partie parce que leur mort était nécessaire. Pourquoi »« Pourquoi ?» demanda Seth. « Quel but pouvait-elle bien servir ?»« La stabilité. Ceux que vous avez tués faisaient partie des hommes les plus puissants et les plus influents de Rochard. En quoi est-ce que ça contribue à la stabilité ?»« Parfois, » dit Tara Vangian, « il faut détruire un édifice pour en bâtir un nouveau avec des murs plus solides. » Il se retourna pour regarder vers l'océan. « Et nous allons avoir besoin de murs solides ces prochaines années, de murs très, très solides. »« Vos paroles sont comme les 100 colombes. »« Facile à libérer, difficile à garder, » compléta Tara Vangian, prononçant ces mots en chinov. Seth releva vivement la tête. L'homme parlait la langue chinove et connaissait les proverbes de son peuple. Une étrangeté chez un marchepierre, chez un assassin. « Oui, je parle votre langue. Parfois je me demande si c'est le frère de vie en personne qui vous a mis sur ma route. » « Afin que je me couvre de sang pour que vous n'ayez pas à le faire, » dit Seth. « Oui, c'est le genre de choses que feraient vos dieux vorins. » Tara Vangian garda le silence. « Levez-vous, » dit-il enfin. Seth obéit. Il obéirait toujours à ses maîtres. Tara Vangian le conduisit vers une porte percée dans le mur du bureau. Le vieil homme décrocha du mur une lampe à sphère pour éclairer un escalier en colimaçon aux marches étroites et profondes. Ils l'empruntèrent et finirent par atteindre un palier. Tara Vangian ouvrit une autre porte et pénétra dans une vaste pièce qui ne figurait sur aucune des cartes du palais que Seth ait achetée ou pu étudier grâce à un pot de vin. Elle était allongée, avec de larges rampes sur les côtés, qui lui donnaient des allures de terrasse. Tout était peint en blanc. Elle était remplie de lits, par centaines. Beaucoup étaient occupés. Seth suivit le roi, songeur. Une immense pièce cachée, taillée dans la pierre du conclave. Des gens vêtus de blouses blanches allaient et venaient. « Un hôpital ?» demanda Seth. « Vous croyez que je verrai dans vos efforts humanitaires une forme de rédemption pour ce que vous avez exigé de moi ?»«
Ce n'est pas une œuvre humanitaire, » répondit Taravangian en avançant lentement dans un bruissement de sa robe orange et blanc. Ceux qu'il croisait baissaient la tête en signe de déférence. Taravangian conduisit Seth vers une alcôve de lit dont chacun accueillait un malade. Des guérisseurs s'y affairaient. Ils faisaient quelque chose à leurs bras, les vidaient de leur sang. Une femme, munie d'une planche à écrire, se tenait près des lits, plumes suspendues en l'air, attendant quelque chose. Quoi donc ?
« Je ne comprends pas, » dit Seth en regardant horrifié les quatre patients pâlir. « Vous êtes en train de les tuer, n'est-ce pas ?»«
Oui, nous n'avons pas besoin de ce sang. Ce n'est qu'une manière facile et lente de tuer. »
Chacun d'entre eux, tous les occupants de cette pièce.
Nous nous efforçons de ne transporter ici que les cas les plus désespérés, car une fois qu'ils sont amenés ici, nous ne pouvons plus les laisser partir s'ils commencent à guérir.
Il se tourna vers Seth, le regard triste.
Parfois, il nous faut davantage de cadavres que les patients condamnés ne peuvent nous en fournir, et nous devons donc amener ici les humbles et les oubliés, ceux qui ne manqueront à personne.
Seth ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas exprimer son horreur et sa répugnance. Devant lui, l'une des victimes, un homme encore jeune, expira. Deux de ceux qui restaient étaient des enfants. Seth s'avança. Il devait mettre fin à tout ça. Il devait...
« Vous allez vous calmer, » dit Taravangian,
« et revenir à mes côtés. »
Seth fit ce qu'ordonnait son maître. Que représentaient quelques morts de plus ? Rien qu'une nouvelle série de hurlements pour le hanter. Il les entendait à présent, qui venaient de sous les lits, de derrière les meubles.
« Ou alors je pourrais le tuer, » songea Seth, « mettre fin à tout ça. » Il faillit le faire, mais l'honneur l'emporta, pour l'heure.
« Voyez-vous, Seth fils Valano, » reprit Taravangian, « je ne vous ai pas envoyé faire le sale travail à ma place. Je le fais ici, moi-même. » J'ai personnellement tenu le couteau et libéré le sang des veines de beaucoup d'entre eux, un peu comme vous. Je sais que je ne peux pas échapper à mes péchés. Nous sommes deux hommes d'un même cœur. C'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis tourné vers vous.
Mais pourquoi ? Demanda Seth.
Sur les lits, un jeune homme mourant se mit à parler.
L'une des femmes, munie de planches à écrire, s'avança précipitamment pour noter ses paroles.
« Le jour était à nous, mais ils l'ont pris !» cria le jeune homme. « Père des tempêtes, vous ne pouvez l'avoir, le jour est à nous ! Ils viennent, le souffle râpeux et les lumières faiblissent, ô Père des tempêtes !»
Le garçon cambra le dos puis s'immobilisa soudainement, les yeux morts. Le roi se tourna vers Seth.
Mieux vaut voir un homme pécher qu'un peuple être détruit, ne croyez-vous pas, Seth, fils Valano?
Nous ignorons pourquoi certains parlent alors que d'autres non, poursuivit Taravangian.
Mais les mourants voient quelque chose.
Tout a commencé il y a 7 ans, à peu près à l'époque où le roi Gavilar commençait à enquêter sur les plaines brisées.
Son regard se fit lointain.
Quelque chose approche, et ces gens le voient. Sur ce pont séparant la vie de l'océan infini de la mort, ils voient quelque chose. Leurs mots nous sauveront peut-être.
Vous êtes un monstre ?
Oui, répondit Taravangian, mais je suis le monstre qui sauvera ce monde.
Il se tourna vers Seth.
« J'ai un nom à ajouter à votre liste. J'avais espéré l'éviter, mais les derniers événements m'y contraignent. Je ne peux le laisser prendre le pouvoir. Il risquerait de tout détruire. »«
Qui donc ?» demanda Seth
en se demandant si quoi que ce soit pouvait encore l'horrifier davantage. « Dalinar Colline, » dit Taravangian, « je crains qu'il ne faille agir vite avant qu'il puisse unir les hauts princes à l'Eti. Vous allez vous rendre dans les plaines brisées et l'éliminer. » Il hésita. « Il faut que ce soit fait brutalement, je le crains. » « J'ai rarement eu le luxe de travailler autrement, » répondit Seth en fermant les yeux. Les hurlements l'accueillirent.